rencontre spirituelle aujourd'hui, nous allons célébrer presque une Montréalaise au fond. En fait, une Montréalaise. Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille que l'on retrouve à la cathédrale de Montréal. Elle est bien heureuse, elle a été béatifiée par le pape quand il est venu à Montréal en 1984. Et c'est aujourd'hui la 264e émission de Rencontres spirituelles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. En ce 3 mai, c'est aussi la fête de Saint-Jacques, le mineur, apôtre. Ce n'est pas le patron de la cathédrale, c'est Saint-Jacques le majeur, la cathédrale de Montréal. C'est aussi la fête de Saint-Philippe, apôtre aussi. Nous en reparlerons sans doute l'année prochaine. Et enfin, il y a aussi Saint-Stanislas aujourd'hui, cet évêque de Cracovie qui a été martyrisé en 1079, et de nombreux autres saints comme d'habitude. La bienheureuse Marie-Léonie Paradis est vraiment une sainte extrêmement intéressante, une bienheureuse intéressante. Une femme humble, simple, directe, et qui a vraiment donné sa vie à Dieu, et qui l'a donnée tout entière au service des pauvres, et particulièrement au service du clergé qui avait bien besoin d'aide. C'est tout un personnage, c'est une femme d'avant-garde, et c'est dans le contexte social, culturel et religieux du 19e siècle qu'il faut situer l'action de Mère Marie-Léonie. Comme femme, puis comme fondatrice. Et quand je dis qu'elle a été au service du clergé, on pourrait croire que c'est une femme d'arrière-garde. Mais non, elle est d'avant-garde. Je le tiens à le dire, parce que dans une société qui confine les femmes aux travaux domestiques et aux œuvres charitables, les femmes se sont situées en fonction de service dans la plupart de leurs engagements privés et publics. Et cela est normal à l'époque. Et c'est au sens le plus rigoureux du terme qu'elle était de son temps. Il faut toujours situer les gens dans leur temps et ne pas les mépriser avec les conceptions qu'on se fait aujourd'hui de notre rôle et de ce que nous savons et de ce que nous avons appris. Marie-Léonie Paradis, cette bienheureuse, a été baptisée Élodie Paradis. Elle est née le 12 mai 1840 dans le village de l'Acadie. L'Acadie faisait partie du diocèse de Montréal à l'époque. Ce village a été nommé comme ça en mémoire des Acadiens qui sont venus s'y réfugier après l'épouvantable conquête que les Anglais ont faite de leur admirable territoire, en particulier en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. C'était épouvantable, n'est-ce pas, en 1755, quand les Acadiens ont été chassés de leur territoire et que les Anglais se sont emparés de ces plus belles terres. Et alors, ils se sont réfugiés là entre 1764 et 1768. Ceux qui ont pu rester ici, au Canada, les autres ayant été déportés à différents endroits, évidemment, aux États-Unis, en Louisiane et ailleurs, c'était épouvantable, cette conquête anglaise de l'Acadie. Quelques années auparavant, vers 1753, il y avait aussi un petit nombre de colons français. Le Canada appartenait encore à la France, et des colons français s'y étaient installés dans ce village. Après la guerre de 1812, oui, il y a eu une guerre en 1812, au cas où vous l'auriez oublié, une guerre avec les envahisseurs américains qui voulaient conquérir le Canada, et nous avons combattu, nous, les Canadiens de langue française, auprès de nos concitoyens qui avaient conquis notre pays, et nous avions repoussé les envahisseurs américains. Eh bien, des familles irlandaises, catholiques et écossaises protestantes se sont venues s'ajouter à la population de l'Acadie, de ce village. Et c'est là qu'elle a grandi, cette bienheureuse Marie-Léonie Paradis, de son nom de jeune fille, Élodie. Et la paroisse dédiée à Sainte-Marguerite d'Écosse, oui, c'est assez curieux, a été érigée en 1784. C'est dans l'église actuelle qui a été bâtie en 1822, puis classée monument historique en 1957, que la petite Élodie a été baptisée. Le village est situé au sud-est de Montréal, entre La Prairie et Saint-Jean. Comme je vous ai dit, ça faisait partie du diocèse de Montréal. Le père d'Élodie, Joseph Paradis, était un des 16 enfants du capitaine Jean-Baptiste Paradis, dont l'ancêtre, Pierre Paradis, était venu du Perche, en France, vers 1653, donc près de 2 siècles avant la naissance d'Élodie Paradis. Il était venu ici, évidemment, pour s'établir en Nouvelle-France, sur la côte de Beauport, où c'est très beau, hein. Et les Paradis s'installent à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, où c'est magnifique encore, en 1672. En 1779, on retrouve la lignée des Paradis à La Prairie et à l'Acadie. En octobre 1837, cette date mémorable dans l'histoire du Québec, à la veille donc de la fameuse rébellion des Patriotes de 1837-1838, Joseph Paradis épousait, juste quelques jours avant la rébellion, Émilie Grégoire de Napierville. Ma famille maternelle, moi, vient de cette région de Napierville, des terreaux. Et ma mère était une terreau. Les ancêtres d'Émilie étaient originaires du Poitou, hein, les ancêtres de sa mère venaient du Poitou. Son père venait du Perche, en France, évidemment. Élodie, donc, notre bienheureuse, était le troisième enfant et la seule fille d'une famille de 6, dont 4 vont parvenir à l'âge adulte. L'aîné, d'ailleurs, Joseph-Édouard, et ensuite il y avait Élodie, ensuite il y avait Émilien et Vital. L'un sera agriculteur et les deux autres vont faire des carrières d'enseignants. Elle a 5 ans lorsque son père décide en 1845 de louer un moulin désaffecté à Saint-Philippe-de-la-Prairie dans le rang de la Tortue. Et alors c'est donc un homme qui travaille très dur, hein, il subvient aux besoins de sa famille, il scie le bois, il moule le grain, il carde la laine, c'est très dur. Quand vient le moment d'envoyer Élodie à l'école, sa mère choisit pour sa fille le couvent des sœurs de la congrégation Notre-Dame à La Prairie. Congrégation Notre-Dame qui a été fondée, je vous le rappelle, par sainte Marguerite Bourgeois, au début de l'établissement de notre peuple ici. C'est là qu'Élodie va être pensionnaire, toute jeune, hein, Élodie a 9 ans, quand son père l'amène pensionnaire à La Prairie. Mais M. Paradis n'arrive pas à se consoler, lui, de l'absence de sa fille unique. Il l'aime beaucoup, sa fille unique. Et comme sa femme ne peut pas toujours l'accompagner lorsqu'il visite Élodie au parloir du couvent, arrivent des événements très amusants. Joseph Paradis, le père, se rend avec complaisance, lui, à toutes les demandes de la petite qui s'ennuie de la maison. Il la ramène donc à la maison. Alors, mère Marie-Léonie va raconter plus tard que sa mère, heureuse de la voir revenir, commençait par l'accueillir affectueusement, mais qu'elle n'hésitait pas à la ramener elle-même tout de suite au couvent, après lui avoir servi un bon repas. S'il était trop tard pour entreprendre le voyage, ce n'était que partie remise au lendemain matin. Et Élodie finira par comprendre, et quand son père voudra encore la ramener à la maison, elle lui dira « J'aime autant ne plus y aller, papa. » Maman va encore venir me reconduire. Alors, son père n'a pas fini de s'ennuyer de sa petite Élodie. Il va s'ennuyer aussi de toute sa famille. En effet, en 1849, il n'a plus d'argent. Il doit s'exiler en Californie, à l'autre bout du continent, dans l'espoir d'y faire fortune avec les chercheurs d'or. Monsieur Paradis tarde à revenir. Alors inquiète, Madame Paradis décide de faire un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Varennes. Oui, un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Varennes à l'époque, en compagnie de son aîné, Joseph-Édouard, et d'un jeune voisin dont il faut retenir le nom, Camille Lefèvre, qui deviendra père de Sainte-Croix. Il aura une grande importance dans la vie de notre bienheureuse. Au retour de ce sanctuaire dédié à Sainte-Anne, les 3 voyageurs s'arrêtent dans une auberge. Puis un numéro du journal La Minerve, le fameux journal La Minerve, qui tombe sous les yeux du jeune Camille Lefèvre. Le journal lui apprend que les Pères de Sainte-Croix, fondés en France et récemment arrivés au pays, sont prêts à enseigner la philosophie et la théologie à des jeunes gens en échange de quelques heures d'enseignement par jour dans leur collège de Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent. Le destin de ce jeune Camille Lefebvre et de Joseph-Édouard Paradis, le frère d'Élodie, devient fixé. Eh oui. Alors, devenu père de Sainte-Croix, Camille Lefebvre va fonder le collège de Memram Cook au Nouveau-Brunswick, où il accueillera plus tard le groupe de religieuses qui seront à l'origine de l'Institut de la Sainte-Famille fondé par la bienheureuse Marie-Léonée Paradis. Et le deuxième, lui, Joseph-Édouard Paradis, bien, va faire carrière dans l'enseignement, comme je vous ai déjà dit. C'est Camille Lefebvre qui apprend à Élodie que la famille de Sainte-Croix comprend une communauté de religieuses, où elle va rentrer, oui, destinée au service des établissements des pères et des frères de Sainte-Croix. C'est une communauté, donc, qui assiste et qui aide les frères et les pères de Sainte-Croix. Élodie n'a pas 14 ans et son père n'est pas encore revenu des États-Unis. Quand le 21 février 1854, elle se présente en compagnie de sa mère au noviciat des sœurs de Sainte-Croix qu'on appelait les Marianites de Sainte-Croix à Saint-Laurent. C'est ces sœurs qui portaient cette grande cornette comme un magnifique soleil. Il fallait pas être assis derrière elles, on ne voyait plus rien. En avant, quand elles étaient au cours à la faculté de philosophie à l'Université de Montréal, quand j'ai pris une licence en philosophie. Il s'agit donc de cette communauté dont Camille Lefebvre lui avait fait connaître l'existence. Récemment fondée en France, donc par le père Basile Moreau, dont je vous parlerai sans doute un jour, la congrégation Sainte-Croix s'était établie à Saint-Laurent, à la demande de Mgr Bourget, qui était évêque de Montréal, un grand monument, Mgr Ignace Bourget, juste devant la cathédrale à droite, là. Un énorme monument. Alors, on s'étonnera pas de voir une adolescente se destiner à la vie religieuse. À cette époque, vous savez, où il n'était pas rare de voir une jeune fille qui était mariée à 15 ans, je vous l'ai souvent dit, eh bien, la vie religieuse présentait, au fond, l'avantage qui n'était pas négligeable de ménager à l'aspirante une espèce de période d'essai, un peu prolongée parfois. Mais la décision d'Élodie, de toute façon, était bien réfléchie, puis on aura bientôt l'occasion de vérifier. De retour de la Californie, M. Paradis apprend, avec stupéfaction, il est épouvanté, l'entrée de sa fille au couvent. Alors il est déterminé à la ramener à la maison. Il trouve qu'elle est trop jeune, puis il l'aime tellement. Alors il se présente un jour à Saint-Laurent, à Ville-Saint-Laurent. Rien n'arrive à ébranler la décision de la jeune novice. Élodie court donc à la chapelle, elle supplie la Vierge Marie de lui éviter d'être arrachée au couvent, elle veut pas quitter. Et son angoisse est telle que ça provoque une espèce d'hémorragie pulmonaire. Il y a un flot de sang qui lui monte à la gorge. Alors, effrayé, son père renonce dès lors à forcer sa fille à le suivre. Après une année au couvent, le 19 février de l'année suivante, Élodie était acceptée comme novice. Elle prenait le nom de sœur Marie de Sainte-Léonie et elle deviendra simplement Marie-Léonie. Elle prononce ses vœux. Le 22 août 1857, à quel âge? À 17 ans. C'est bien jeune, mais les gens se mariaient de façon définitive pour la vie à 15-16 ans. C'est une autre époque. Mais les supérieurs à l'époque trouvaient ça un peu jeune. C'était un privilège qu'elle avait obtenu. Les supérieurs l'envoient à Varennes, puis à Saint-Laurent, puis à Saint-Martin-de-Laval. Elle enseigne aux jeunes, elle surveille l'étude et la récréation, elle agit comme secrétaire de la supérieure. Élodie a 22 ans quand on l'envoie dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de New York, qui a été fondée en 1841, car il y avait beaucoup de Canadiens français qui s'étaient établis à New York, il y avait aussi des Français. Et elle a donc pu rendre service les sœurs marianistes, ou marianites, ou les sœurs de Sainte-Croix si vous préférez, viennent d'accepter la responsabilité d'un orphelinat à New York. Elles ont aussi la responsabilité d'un ouvroir, où on apprend aux jeunes filles à coudre, c'était très important à l'époque. Elles ont aussi la responsabilité d'une école pour les enfants pauvres. Alors, sœur Marie-Léonie va accomplir auprès des orphelins des fonctions de mère. Elle a un tempérament profondément maternel. C'est une excellente éducatrice aussi déjà. Puis elle va les accompagner dans des promenades hors de la ville. Et surtout, elle va recevoir leur confidence. Bien oui, les orphelins, elle les aime. Sœur Marie-Léonie va vivre 8 ans à New York. Ensuite, elle sera appelée dans l'Indiana. Vous savez que c'est là, en Indiana, qu'à la fameuse université Notre-Dame, ou Notre Dame, comme on dit aux États-Unis, c'est là qu'ils ont un club de football absolument renommé par tous les États-Unis. Et l'université Notre-Dame est toujours sous la juridiction des pères de Sainte-Croix, dont certains sont des êtres absolument exceptionnels, hein? Des Américains de très grande valeur, prêtres de Sainte-Croix. On les a vus déjà à la télévision. Impressionnants ces hommes. Hein? Et alors donc, elle est appelée en Indiana en 1870, puis on lui confie l'enseignement du français et des travaux d'aiguille auprès des sœurs qui se destinent à l'enseignement. Alors qu'elle se sent, elle, toujours plutôt attirée par le service domestique, tout simplement. Ce qui va l'amener, d'ailleurs, à fonder une congrégation spécialement dans ce but-là. Les événements vont se dessiner petit à petit. Mais auparavant, j'aimerais, en m'inspirant d'un texte de Denise Robillard, un texte fort, fort intéressant sur l'état de l'éducation au 19e siècle, bien, je voudrais m'inspirer de ce texte pour situer tout ça. Il n'est pas possible de comprendre le bien fondé de l'œuvre de Marie-Léonie et son importance sociale sans se rappeler la pauvreté matérielle et intellectuelle de la société canadienne au 19e siècle. Il faudra en effet plus d'une génération pour effacer les séquelles, les suites de la conquête de notre pays en 1760. Le départ de nos élites, en particulier. Puis le démantèlement des 2 collèges qui existaient à Québec. Ça va continuer à faire baisser le niveau d'instruction de nos ancêtres. À cause de la guerre, d'ailleurs, le séminaire et le collège des Jésuites de Québec ont dû fermer leurs portes, cessant tout enseignement organisé entre 1757 et 1765. Il faudra un ordre de l'évêque de Québec pour que l'enseignement reprenne au séminaire, qui était dirigé par des prêtres. Mais on ne pouvait plus compter sur les jésuites, qui étaient des religieux, évidemment, parce que l'occupant anglais leur avait interdit de se recruter. Et cette interdiction a provoqué le retour en France d'une partie de ces jésuites. En 1767, donc 4 ans après le traité de Paris qui cédait le Canada aux Anglais, un sulpicien va ouvrir dans son presbytère une école latine, comme on disait, qui se transformera pour donner naissance au petit séminaire de Montréal. Au début du 19e siècle, un nombre croissant de curés font ainsi l'école dans leur presbytère. J'ai bien dit des curés. On parle toujours contre les curés, mais regardez et écoutez bien ce que ces hommes vont faire pour nous. Plusieurs de ces écoles se transformeront et deviendront collèges ou séminaires. On compte 25 fondations de collèges entre 1803 et 1900. 25 fondations de collèges. Ces institutions, dirigées par le clergé séculier ou par des religieux, quelquefois par des laïcs, comportent tout un régime de pension. On prend des pensionnaires, et souvent gratuitement. Il y a le séminaire de Nicolet, en 1803, le collège de Saint-Denis-sur-Richelieu, 2 ans plus tard, le collège de Saint-Hyacinthe en 1811 et le collège de Saint-Roch à Québec en 1818, le séminaire de Sainte-Thérèse et le collège de Chambly en 1825, le collège Saint-Anne de la Pocatière en 1827, le Collège d'Assomption en 32 et le séminaire de Joliette en 46. Le Collège de Saint-Laurent et le Collège Masson à Terrebonne en 1847. Et l'année suivante, le Collège Sainte-Marie à Montréal, qui est détruit maintenant, sur la rue de Bleury, à côté du Jésus. Car les Jésuites, aujourd'hui, ont perdu tout leur collège au Québec. Le Collège Bourget à Rigaud en 1850. Le Collège Sainte-Marie de Monnoir à Marieville et le Collège de Lévis en 1853. Le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières en 1860 et le séminaire de Rimouski en 63. Je vous donne cette liste pour que vous la graviez, si possible, un peu dans votre mémoire. Et le Collège Sacré-Cœur de Sorel en 68, le séminaire de Chicoutimi en 73, et celui de Sherbrooke en 75, et le séminaire de philosophie à Montréal sur le chemin de la Côte-des-Neiges en 1876. Et le séminaire Saint-Antoine de Trois-Rivières en 92, et celui de Valleyfield en 1893, et le séminaire Saint-Alphonse à Sainte-Anne-de-Beaupré en 96, et enfin, le séminaire Montfort à Papineauville en 1898. Vous voyez tout le travail qui a été fait au 19e siècle pour essayer de sauver notre peuple, hein, pendant que les garçons seuls profitaient de ces nouvelles institutions d'enseignement secondaire. Mais l'enseignement élémentaire était dispensé aux garçons et aux filles par des religieuses, des religieux, quelques instituteurs et institutrices laïques. Et il n'est pas rare, ajoute Denise Robillard, il n'est pas rare de voir des curés fonder des couvents dans leur paroisse pour y faire dispenser cet enseignement. Et parallèlement aux fondations de séminaires et de collèges, on assiste donc à la multiplication des communautés de sœurs et de frères pour l'instruction des enfants. Oui, nous sommes séparés de la France à ce moment-là. Personne n'a le droit de venir de France pour nous assister et nous aider. C'est défendu par l'occupant anglais. Alors on recourt à des communautés européennes toutefois, car eux sont célibataires et n'engendreront point d'enfants. Ou on fonde des communautés autochtones, comme le fera Mgr Bourget à Montréal. Et c'est à cette époque, par exemple, que la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne et celle des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie ont été fondées. Le clergé se soucie de l'instruction secondaire des jeunes gens, mais la tâche ne s'avère pas facile pour n'en donner qu'un exemple. Quand le curé de Saint-Denis envoie des jeunes garçons de sa paroisse étudier au Collège de Montréal, aucun d'eux ne réussit, alors il faut en chercher la cause dans leur manque de préparation, mais aussi dans le dépaysement de ces jeunes qui n'avaient jamais franchi les limites de leur village. Puis une difficulté qui n'est pas sans rappeler celle de Mère Marie-Léonie, aux prises avec des filles qui s'ennuient de leur famille et à qui elle doit apprendre les rudiments de la cuisine puis de l'entretien ménager en même temps que la lecture puis l'écriture. Notre peuple était vraiment dans la désolation. Nous avions perdu nos élites et nous étions séparés de la France. Alors on accueillera dans les nouveaux collèges un grand nombre de fils de cultivateurs qui deviendront, eux, les curés. Ils deviendront aussi, ces fils de cultivateurs, des médecins, les notaires, les avocats, les hommes politiques, les élites des années subséquentes, car nous avions perdu, je vous le répète, toute notre élite administrative ou presque était retournée en France au moment de la conquête. Et comme on était alors plus souvent pauvres que fortunés, mais l'entretien de ces collégiens, pensionnaires, ça constituait, pensez-y bien, une charge de plus en plus onéreuse. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne pouvait pas payer un personnel laïque. Et c'est comme ça qu'il a fallu songer à recourir au service presque bénévole d'une communauté religieuse. Et c'est dans ce contexte-là, voyez-vous, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette œuvre admirable des petites sœurs de la Sainte Famille, et qu'elle prend sa véritable dimension. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte admirable de Denise Robillard. Et lorsqu'on songe à distribuer les crédits de l'immense effort déployé pour mettre en place un système d'enseignement qui apparaissait de plus en plus indispensable au progrès de notre société à cette époque, il ne faut pas passer sous silence cette tâche humble mais vitale qu'elles ont assumée. Donc, en 1874, Sœur Marie-Léonie se trouve à Lake Linden, au Michigan, en ce moment-là. Et c'est là qu'elle apprend que le supérieur général des Pères de Sainte-Croix, elle qui est sœur de Sainte-Croix, l'envoie à Memram Cook au Nouveau-Brunswick prêter main forte à son compatriote, là, le père Camille Lefebvre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le père Lefebvre, père de Sainte-Croix, était venu à Memram Cook en 1863, à la demande de l'évêque de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Monseigneur John Sweeney, qui était un évêque extrêmement dur, même s'il était évêque catholique irlandais, était très dur à l'écart des Canadiens français, et particulièrement des Acadiens. Il souhaitait, comme tant d'autres Irlandais, que nous parlions anglais. Et alors, en 1874, le père Lefebvre demande et obtient des recrues pour les soins de l'économie domestique et de la bonne tenue de son collège. Et on envoie 4 novices qui ne parlent que l'anglais. Alors, il écrit tout de suite à son supérieur que ça n'a pas de sens, parce qu'il ne parle même pas lui-même l'anglais, il ne parle que le français. Il demande donc qu'on envoie 2 autres sœurs qui parlent le français. Et quelques semaines plus tard, le supérieur général des Pères de Sainte-Croix va envoyer une professe et sœur Marie-Léonie, qui a 34 ans, va prendre la direction des 5 religieuses, et c'est ainsi qu'elle s'installe à Memram Cook auprès du père Lefebvre, et qui se réjouit de la présence de Mère Marie-Léonie Paradis, cette future bienheureuse. Nous en étions au moment où le père Camille Lefebvre, de la congrégation de Sainte-Croix, qu'elle connaissait depuis son enfance, la reçoit à Memram Cook. Elle a 34 ans. Elle prend la direction de 5 religieuses. Le père Lefebvre fait aussitôt part à son supérieur de sa satisfaction, mais aussi d'une espèce de difficulté qu'il prévoit. Il écrit: « Nous avons ici un certain nombre de postulantes, toutes filles fort bien disposées et capables, mais une difficulté s'opposera à la persévérance de quelques-unes. C'est la perspective de se rendre dans l'Indiana aux États-Unis, à Notre-Dame, et dans une communauté où l'on ne parle pas le français. » Alors, c'est que on sait, n'est-ce pas, qu'à cette époque, le voyage en plus de ça de Memram Cook en Acadie, au Nouveau-Brunswick, jusqu'à dans l'État de l'Indiana, où est Notre-Dame, ça représente 30 heures de train. Et déjà, le père Lefebvre entrevoit la nécessité donc d'un noviciat au Canada. L'Acadie, qui est au Nouveau-Brunswick, pas le village, c'était pas la seule région à réclamer les services de religieuses pour la bonne marche d'un collège. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Chaque nouveau collège fondé au Québec devait faire face, je vous l'ai dit, au même problème. Et c'était le cas, par exemple, du Collège Notre-Dame à Montréal, devant l'Oratoire Saint-Joseph, aujourd'hui. Après une première démarche infructueuse, on charge Sœur Marie-Léonie d'aller demander à l'évêque de Montréal, Mgr Fabre, l'autorisation pour obtenir des recrues qui viendraient de l'Indiana. Et l'évêque de Montréal demande plutôt à la supérieure pourquoi elle ne fonderait pas elle-même une petite communauté francophone pour le service des collèges. Alors, Sœur Marie-Léonie répond que l'idée est excellente, je vais la transmettre au père Lefebvre. Il était peu probable que l'évêque de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, Mgr John Sweeney, dont je vous ai dit un mot un peu méchant tout à l'heure, va accepter une congrégation nouvelle dans son diocèse, surtout une congrégation de langue française. Alors le père Lefebvre le sait. De son côté, Sœur Marie-Léonie se rend vite compte de la difficulté de la situation, les dépenses occasionnées par le voyage des postulantes à Notre-Dame de l'Indiana, n'est-ce pas, devenait un obstacle à l'entrée des jeunes Acadiennes dans la vie religieuse. Parce qu'il y avait eu des Acadiennes rentrent là-bas, même Memram Cook, puis finalement qu'elles sont envoyées là-bas à l'Indiana pour faire leurs vœux et tout ça, chez les Américains de langue anglaise. Alors, il y avait toutes les différences aussi de mentalité, la difficulté de faire cohabiter des novices américaines unilingues anglophones, puis des Acadiennes qui ne savent pas un mot d'anglais. Tout ça, c'est
histoire était épouvantable. Alors, en attendant une solution, on décide de fonder un ouvroir pour y accueillir les jeunes Acadiennes à titre d'auxiliaire. C'est un début, hein? Et là, le 26 août 1877, 14 Acadiennes prennent un habit uniforme, différent de celui des Sœurs de Sainte-Croix. À la communauté à laquelle appartient Sœur Marie-Léonie. Alors l'événement va être annoncé en chaire, le dimanche précédent, comme, écoutez bien ça, la première prise d'habit en Acadie française depuis la fondation de Port-Royal en 1605. Imaginez. En avril 1880, le chapitre général des Pères de Sainte-Croix accepte l'idée d'une nouvelle fondation. L'acte officiel sera rédigé et signé par le Père Lefebvre le 31 mai 1880. De l'avis de certains contemporains, la nouveauté que représentait la communauté en voie de formation à Memramcook n'était peut-être pas de nature a inspiré confiance à Mgr Sweeney, l'évêque irlandais, qui pendant 20 ans n'a jamais consenti à donner son approbation. Ces délais ont été considérés, d'ailleurs, comme un refus voilé. C'est le père Alfred de Roy qui dit « On comprendra combien, dans les circonstances pénibles où se trouvait la nationalité acadienne, ces Acadiens éprouvèrent de gratitude et de vénération pour Mère Marie-Léonie, qui ouvrait à leur fille les portes d'un couvent catholique et français. » La population acadienne, d'ailleurs, a pris vite l'habitude d'aller chercher auprès de Mère Marie-Léonie des conseils, des encouragements. Elle était sainte dans son langage et dans sa manière d'agir. Elle se montrait bienveillante envers tous, les riches, les pauvres, les savants, les ignorants. Elle n'hésitait pas à se rendre auprès des vieilles indiennes pour les soigner même dans leur tente. Les Acadiens considérait Mère Marie-Léonie comme une conseillère et une sainte. Ils étaient tellement attachés à elle que la décision de déménager le noviciat et la maison-mère à Sherbrooke, au Québec, a été considérée par certains comme une trahison et même une nouvelle déportation. Vous savez, la déportation des Acadiens en 1755, quand les Anglais ont déporté la population. C'était tragique, ça. Au sein même de la communauté, l'exode a provoqué une souffrance très vive. 21 ans en Acadie avec ses liens difficiles à briser, mais Mère Léonie s'était imposée par sa bonté, alors aussi est-ce dans les pleurs que la séparation s'est faite, et a commencé par, évidemment, la fondatrice. Hein? Alors, ils sont partis pour Sherbrooke. L'exode, donc, de la fondation acadienne à Sherbrooke, considéré comme un abandon à Memramcook, s'avérait essentiel pour permettre à la communauté de perdurer. Et le 5 octobre 1895, le personnel de la nouvelle maison mère des Petites Sœurs de la Sainte-Famille s'installe rue Peel, à proximité du séminaire Saint-Charles, dont l'entretien sera en partie assuré par les Petites Sœurs. Et c'est la fondation de cette communauté extraordinaire, d'un dévouement fantastique. Il y a eu un film de l'Office national du film qui a été fait là-dessus, qui a émerveillé les gens. À 56 ans, Mère Marie-Léonie recommence à vivre les misères d'une fondation avec son dénuement et ses privations. Elle poursuit sans cesse son œuvre de formation auprès de ses petites filles, comme elle les appelle. Alors que les demandes d'aide affluent, les demandes viennent du Québec et même des États-Unis. L'expérience de Memramcook l'incite à donner une règle de vie à son institut. Il est remarquable, vraiment, de constater l'emprise de cette femme sur ses sœurs. Et c'est Mgr Georges Gauthier, évêque de Montréal, qui l'a considérée comme une sainte, qui dit un jour à ce sujet, « Il fallait que votre fondatrice fût une grande sainte et ses sœurs de vraies religieuses pour avoir vécu aussi longtemps et sans scandale, avec des règles si peu élaborées. » Oui, parce que c'était des règles très saintes. À chaque sœur chargée de diriger une maison, Mère Marie-Léonie demande simplement de veiller sur sa communauté pour que tout y respire la paix, l'accord et l'union fraternelle en notre Seigneur. Tout simplement. soucieuse d'écouter chacune, de ne jamais désespérer de personne, Mère Marie-Léonie sera d'une remarquable persévérance à aider la bonne volonté puis à encourager les moindres efforts. Il n'y a pas de rudesse chez elle, d'impatience ou de paroles choquantes. Et c'est ce qu'elle recommande à toutes les supérieures. Mère Marie-Léonie est souvent revenue auprès de ses filles pour leur expliquer ce que devait être la dévotion à l'égard du prêtre. Et c'est un service éclairé pour elle, un service éclairé par une vision de foi qu'elle voulait leur transmettre. Elle n'était pas dupe, Mère Marie-Léonie, elle savait bien que les prêtres ne sont pas sans défaut, qu'ils l'ignorent. Les prêtres sont les premiers à le savoir. Et ses sœurs sont bien placées pour être les témoins de ces pauvres défauts. Mais Mère Marie-Léonie avait pris l'habitude de voir le Christ d'abord dans les prêtres. Et c'est lui qu'elle servait en définitive, le Christ. C'est le même esprit de foi qui va lui inspirer de payer les études d'étudiants pauvres qui, devenus prêtres par la suite, ont témoigné de l'esprit surnaturel de cette femme exceptionnelle. C'est Monseigneur Larocque, évêque de Cherbourg, qui disait « Sa main est toujours ouverte pour donner. » Non, oui, elle a un grand cœur. Il va la décrire un jour comme une femme toute de cœur, la bonté personnifiée. Mais cette estime ne l'empêche pas d'avoir recours à elle, à des procédés que l'on considère aujourd'hui comme durs, inacceptables. Il a été dur avec elle, des fois. Non, les évêques du temps, hein. C'était comme ça. Ceux qui l'ont connue m'ont témoigné de sa conscience sociale. Mère Marie-Léonie a voulu prendre le soin matériel des séminaires et collèges par pur dévouement, par zèle apostolique. Elle n'exigeait de ses maisons qu'un salaire bien minime, voire dérisoire. Elle était amenée à se contenter de salaires insuffisants pour rémunérer sa communauté, proportionnellement au travail. Et dans les débuts, elle avait dû signer un contrat fort défavorable pour ses sœurs, d'ailleurs. Monseigneur Larocque était conscient de l'importance sociale du service fourni par ces femmes. Et en accueillant les petites sœurs dans son diocèse, il posait un geste exemplaire. Les autres séminaires et collèges aux prises avec d'énormes difficultés concernant le service matériel de ces maisons, mais ils allaient comprendre le message puis recourir aux petites sœurs. En 1896, jusqu'à sa mort, 16 ans plus tard, Mère Marie-Léonie va se soumettre à la direction de cet homme qui avait en quelque sorte rescapé son institut au moment de la mort du Père Lefebvre. En effet, l'attachement de Monseigneur Larocque, évêque de Cherbourg, aux petites sœurs, s'est encore manifesté au moment de la mort de la fondatrice. Il passe une partie de la nuit à prier avec elle. Il envoie lui-même des télégrammes, il prend en main une partie des démarches à faire pour les funérailles. D'ailleurs, après la mort de Mère Léonie, Monseigneur Larocque va lui rendre hommage. Il dit, elle a passé toute sa vie à se donner. J'en ai été le témoin presque quotidien pendant 17 ans. 17 ans. Les contemporains de Mère Marie-Léonie ont été frappés par une attitude constante chez elle. Elle ne peut croiser une misère ou une faiblesse sans prendre l'initiative d'un geste de bonté ou d'une aide vraiment efficace. Elle pratique spontanément la directive évangélique. Couper en deux son manteau, partager son repas. C'est elle, ça. Dès le début de sa vie religieuse, Mère Marie-Léonie se consacre aux orphelins francophones de New York, on l'a vu. Elle est si proche des problèmes et des besoins des enfants qu'il lui témoigne une confiance inusitée. Lorsque, dans la trentaine, elle arrive en Acadie, les aides ménagères acadiennes du collège de Memram Cook trouvent chez elle une compréhension puis un réalisme absolument rare. C'est pour ces jeunes filles et pour celles qui viendront plus tard que Mère Marie-Léonie fonde l'Ouvroir Saint-Joseph, dont je vous ai parlé, premier espoir pour elle d'accéder à une famille religieuse en français, puis à un service significatif, puis à une formation dans un milieu adapté à leurs besoins. Ces jeunes femmes se sont vus refuser l'entrée des communautés enseignantes ou hospitalières de langue anglaise établies dans les maritimes, sont sans perspective d'avenir et ce sont des humbles, des personnes avec lesquelles on peut, comme le dit saint Paul dans son épître aux Corinthiens, bâtir une église. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Hein, c'est saint Paul qui dit ça. Car ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Alors, Mère Marie-Léonie recommande l'humilité, d'ailleurs, et le dévouement à ses petites sœurs. Mais elle veillera à ce que jamais ne soit exploité ou maltraité. Elle-même s'intéresse jusque dans les détails concrets de leur santé, leur alimentation, leurs vêtements, leur logement. Dans les séminaires, dans les collèges, elle recommande de prendre un soin particulier des prêtres et des étudiants pauvres. Les sœurs paieront besoin des études des plus démunis, leur donneront des vêtements. Mais à l'exemple de Mère Marie-Léonie, elles n'hésiteront pas à se priver du nécessaire pour cela. À même Ramcook puis à Sherbrooke, les malades ne cesseront d'ailleurs de venir la voir pour lui demander de prier pour eux. Ils ne repartiront pas les mains vides. Mère Marie-Léonie trouve toujours quelque chose à donner. Des vêtements, de l'argent, des médicaments, de la nourriture. Son cœur est immense. Si elle rencontre, au hasard de ses nombreux voyages, une famille pauvre, des immigrants, elle les prend en charge. Elle les amène au couvent. Elle les loge pour la nuit. Oui, elle les amène au couvent et les loge pour la nuit. Combien de couvents font ça aujourd'hui, je me le demande. Elle leur procure les billets de train pour se rendre à destination. Quelle femme! Elle ne les laisse partir qu'après leur avoir servi un bon repas et s'être assurée qu'ils étaient chaudement vêtus. Quelle gentillesse! Lorsque les Clarisses et les Trappistines, qui ont été chassés de France au début du siècle par la loi Combes, viendront au pays ici, mais c'est Mère Marie-Léonie qui va les accueillir. Elle fera confectionner même des vêtements chauds pour ces moniales surprises par les rigueurs de nos hivers. D'autre part, les sœurs du précieux sang, fondées ici, vont recevoir d'elles leur premier dîner. À l'occasion de déménagement, elle leur apportera les trois repas pendant une semaine et elle paiera elle-même les frais élevés de la réparation de leur fournaise. Mère Marie-Léonie accueille aussi pendant 3 mois et demi les Clarisses venues s'établir à Valleyfield. Elle aide les filles de la charité du Sacré-Cœur qui fuient la France et elle envoie du secours pour les orphelins des sœurs de la charité. Mère Marie-Léonie n'hésite pas à payer les employés plus qu'ils ne méritent. Et elle tient compte de leurs besoins pour déterminer leur salaire. Alors que les petites sœurs sont peu payées par les séminaires, bien la fondatrice se réveille soucieuse, elle, de payer un juste salaire aux laïcs. À même Ramcook, en Acadie, Mère Marie-Léonie offre au collège presque tout l'argent qu'elle reçoit. Imaginez. Elle et ses sœurs vivent dans une maison presque à l'abandon, une maison abominable. Afin d'économiser le plus possible, même ses sœurs tissent elles-mêmes leurs propres sous-vêtements, leurs bas et leurs tabliers pour économiser et donner. Les sœurs blanches d'Afrique, qui en juin 1909 ont frappé à la porte de la maison mère des petites sœurs de la Sainte Famille à Sherbrooke, ont profité elles aussi du grand cœur de Mère Marie-Léonie. Ben oui, les sœurs blanches d'Afrique, formidable, mais celle-ci, Mère Marie-Léonie, a offert $20 pour l'adoption d'une petite fille kabyle en Algérie. La somme a été consacrée à l'éducation d'Aïni Bouraden. Et en 1910, celle-ci écrivait à sa marraine, Mère Marie-Léonie, pour la remercier puis lui annoncer son prochain baptême. Et après avoir été baptisée sous le nom de Marie-Léonie, justement, le 6 janvier 1911, elle a épousé, le 17 août suivant, un jeune chrétien nommé Jean-Marie Damar, D-A-H-M-R. Et un de ses fils, Georges, est devenu le premier prêtre kabyle. Il a été ordonné prêtre le 24 juin 1947 dans la cathédrale d'Alger. C'est fantastique, hein? Cette femme intrépide qui a réussi dans la pauvreté la plus complète à mettre sur pied à rendre efficace une œuvre qui comptait 40 maisons à sa mort, va rester sur la brèche jusqu'au dernier quart d'heure de sa vie. Mère Marie-Léonie a parcouru inlassablement les routes du Canada et même des États-Unis, en dépit d'une santé précaire. Terrassée par une bronchite aiguë en 1894, elle souffrira jusqu'à sa mort d'affection à la gorge et de malaise au foie. Et elle disait, nous nous reposerons au ciel. Elle disait ça souvent. Nous nous reposerons au ciel. Elle n'acceptait jamais de prendre du repos. Le 19 mars 1912, elle installe 4 de ses sœurs pour prêter main forte au père de Sainte-Croix qui desservent le pèlerinage de l'oratoire Saint-Joseph. Et ce sera sa dernière fondation. Mais avant de rentrer à Sherbrooke, elle visite ses sœurs de Montréal, de Valleyfield, et du Juniora et de l'Université d'Ottawa. En avril, elle se retire dans la solitude durant 3 jours avec 2 proches collaboratrices et ce sera sa dernière retraite. Le vendredi 3 mai 1912, Mère Marie-Léonie entreprend ses tâches habituelles. Elle participe à la messe. Elle déjeune avec la communauté. Il y a une réunion du conseil pour délibérer sur 2 fondations en perspective. Avec sa secrétaire, elle termine durant l'après-midi la correction du livre des règles et fait remettre le texte à l'imprimerie. Elle se rend ensuite à la chapelle. Oui, elle se rend à la chapelle pour 1 heure de prière et la récitation du chapelet. De la chapelle, elle se rend à l'infirmerie visiter les sœurs malades. Elle dit à l'une d'elles, « Au revoir au ciel. » Et de nouveau, avec ses sœurs, pour le souper, vient la fondatrice, remonte ensuite à sa chambre en compagnie de ses 2 secrétaires, qui remarquent chez elle une lassitude inhabituelle. Alors elle s'inquiète. Et elle leur dit, « Je vais me mettre au lit tout de suite, car je m'endors. » Et chose curieuse, sitôt couchée, elle pâlit et on fait venir le médecin et le prêtre. Mère Marie-Léonie s'est éteinte pendant que le prêtre faisait ses dernières onctions du sacrement des malades. Elle avait 72 ans. La réputation de sainteté de cette fondatrice extraordinaire allait connaître un nouvel essor après sa mort. Une foule immense assistait à ses funérailles, composée des plus humbles et des plus grands. Les témoignages se sont multipliés. C'est le père Lejeune, un noble de Marie Immaculée, qui a été son conseiller durant plusieurs années, qui a dit, il était impossible de l'avoir entretenu pendant quelques instants sans avoir pressenti la beauté de son âme, toute recueillie en Dieu, sans cesse unie à lui, présent au-dedans d'elle-même. Je répète cela car c'est très beau comme témoignage. C'est un des plus beaux témoignages que j'ai vu rendu au sujet d'un Québécois ou d'une Québécoise. C'est le père Lejeune, un noble de Marie Immaculée, qui a dit son conseiller, qui dit, il était impossible d'avoir entretenu Mère Marie-Léonie durant quelques instants, sans avoir ressenti la beauté de son âme, toute recueillie en Dieu, sans cesse unie à lui, présent au-dedans d'elle-même. Un ancien élève du collège de Memramcook, un sénateur, le sénateur Pascal Poirier, disait en 1927, « Je sais le bien qu'elle a fait en Acadie, au Canada et ailleurs, et son souvenir m'est bien cher, comme le bon père Lefebvre, c'était une prédestinée, Et celui-ci et celle-là sont des saints.
Oui, ce sont des saints de chez nous. Des saints comme on s'en trouve très peu,
malheureusement. Il faudrait qu'on en trouve beaucoup plus.
Elle disait à ses sœurs, Mère Marie-Léonie, « Nous tâcherons, oui, nous tâcherons que nos cœurs soient des lampes vivantes par la ferveur de nos prières. » Elle disait aussi aux exercices de piété, qui sont des moyens directs de sanctification, il faut ajouter le travail. Les sœurs ne perdront jamais de vue la Sainte Famille travaillant sous le regard de Dieu, à qui elle offrait ses occupations et ses fatigues. On peut s'imaginer que Marie, Joseph et Jésus offraient leurs occupations puis leurs fatigues à Dieu. Et elle disait, Mère Marie-Léonie, nous ne sommes pas entrés en communauté pour rechercher nos aises, pour nous bien porter, mais pour nous sanctifier par le travail et pour nous dépenser.
C'est magnifique.
C'est simple, mais c'est tellement vrai. Ça aurait besoin d'être rappelé quotidiennement.
Mes petites sœurs, aimez-vous les unes les autres, disait Mère Marie-Léonie. Vous entraidant mutuellement et joyeusement, vous consultant, vous pardonnant, vous acceptant les unes les autres, en soyez pleines d'attention, de délicatesse, qui font oublier les peines de la vie et font goûter le bonheur et la joie dans le travail obscur.
Elle disait aussi, si vous désirez m'offrir un cadeau que j'estime plus que tout autre à l'occasion du Nouvel An, un cadeau qui me cause le plus grand plaisir possible, mais qui ne coûte pas d'argent, c'est la promesse sincère de ne causer aucun sujet d'ennui à votre vieille mère générale qui vous aime tant, mais qui est si heureuse quand elle apprend que toutes ses petites sœurs sont bonnes, charitables les unes pour les autres. Et voilà qui termine cet petit exposé sur la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, fondatrice des petites sœurs de la Sainte Famille.